un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
Il s'appelle Argos et c'est le premier chien de l'histoire de la littérature et matrice de bien d'autres. C'est le chien d'Ulysse qui revient à Ithaque sous les traits d'un mendiant après 20 ans d'absence et le seul à le reconnaître après tout ce temps passé. Or, à peine avait-il flairé l'approche de son maître qu'il agita la queue et replia ses deux oreilles. Ulysse, en le voyant, essuie une larme qu'il cache au pasteur. Argos ne survivra pas à son émotion de revoir le héros. Sa fidélité et son amour se trouvent alors enveloppés dans les ombres de la mort dès qu'il retrouve son maître après 20 ans d'absence. Par sa mort, le chien d'Ulysse devient donc un symbole de fidélité et de dévouement animal. Argos donnera ensuite son nom à des milliers de chiens, de refuges, d'associations de défense des animaux et j'en passe. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, comme l'histoire d'Argos et Ulysse, trois autres histoires d'amour fulgurantes et contrariées entre des hommes, des femmes et des animaux.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Thierry et j'adore vivre avec les animaux. Mon souvenir le plus ancien et le plus fort avec un animal, il me semble que c'est aux alentours de l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. Et c'est un très gros chien de ferme. C'était vraiment mon ami, ce chien. C'était un chien qui habitait à la ferme qui jouxtait la maison que j'habitais, en moyenne montagne, à peu près à 1300 mètres d'altitude. Je me souviens très bien que je passais des nuits dans la ferme, dans l'étable, contre un veau et surtout contre le gros chien que j'adorais qui s'appelait Prince. Ce chien était un chien de bouvier, un chien qui vivait 24-24 au contact des vaches, qui était harnaché tous les jours, attaché à un chariot et il amenait les brocs de lait à la coopérative qui se trouvait au centre du village à 3 ou 4 kilomètres de l'endroit où était cette ferme. Et moi, je montais régulièrement sur lui. Tout le monde me laissait monter sur lui et aller au centre du village à la coopérative pour qu'à la coopérative on prenne les brocs de lait. Et donc, je me souviens très très bien de lui. Il était très volumineux. Il sentait très 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 fort aussi. Il sentait vraiment le chien de ferme. Je me souviens que j'adorais cette odeur, que je me sentais bien dans la proximité. C'était vraiment mon ami. C'est-à-dire que mes grands-parents, comme le fermier qui s'appelait Monsieur Matty, disaient tout le temps « Oh, Prince, il adore Thierry et Thierry risque rien. » J'ai eu la chance d'avoir une petite enfance très très privilégiée avec une grand-mère paysanne normande et un grand-père qui avait fait fortune, son époux. Dans mes souvenirs conscients de tout jeune enfant, il y a tout le temps mes grands-parents. Je suis tout le temps avec eux, je vis avec eux. Et de temps en temps, je vois une maman qui est super belle, super rigolote. Elle rigole tout le temps. J'adore la coiffer. Je la trouve tellement belle. Elle est très, très jeune dans mon souvenir. Et pour moi, je sais que c'est ma maman. Je l'appelle maman, mais c'est un peu comme une grande sœur, plus j'ai l'impression. Et ceux qui ont la tâche de me nourrir, qui sont avec moi quand je me couche et que je m'endors, etc., c'est toujours mes grands-parents. Bien souvent, ma mère, elle n'était pas là. Et donc, ses grands-parents, ils sont à la retraite, ils sont grands bourgeois, ils ont une vie très privilégiée. Et entre l'âge de 2 ou 3 ans et l'âge de 6-7 ans, j'ai passé ma vie essentiellement dans deux lieux physiques, soit dans cet environnement privilégié et extraordinaire, la montagne suisse, dans un cadre très campagnard et... un appartement au sommet d'un immeuble face au bois de Boulogne. Et il y a un très très grand jardin avec des très grands arbres où on nourrit sans cesse les oiseaux, mais on les observe sans cesse. Il y a énormément d'oiseaux. Et ma grand-mère, c'était chaque jour, en fait, ma professeure du vivant, vraiment. Mais chaque jour, tout le temps. Elle avait un respect infini pour tous les animaux. On nourrissait les renards, on nourrissait les blaireaux. Jamais de moment d'angoisse, jamais de moment de tristesse, de solitude. Enfance ultra heureuse. Ensuite, il y a brutalement quelque chose de dramatique. Je ne vis plus avec mes grands-parents, mais je me retrouve dans un appartement, puisque ma mère a un nouveau foyer, un nouveau mari, et elle souhaite récupérer le fils qu'elle a eu d'un foyer précédent. Mais cette fois-ci, sans grand jardin, sans terrasse, sans oiseaux, c'est super sombre, et ça me semble super triste. Je me retrouve avec ma maman et un beau-père qui n'aime pas les animaux et qui est un homme qui s'énerve beaucoup, qui peut être violent, dont j'avais plutôt peur. Et je précise que ce beau-père, il est slave, et je pense que il est vraiment issu d'une culture où on élève les enfants avec rigueur et sévérité. Et ça me déstabilise complètement. Et je me sens noir. J'ai l'impression que je suis tout le temps dans le gris, dans le noir, dans le triste. Ma mère, elle ne m'a jamais parlé de mon père. Elle ne m'a jamais dit qui était mon père. Je me suis jamais posé la question. Et lorsque ma mère m'a présenté mon beau-père, quand j'avais 6 ans, elle m'a demandé de l'appeler papa. Ce que j'ai fait, parce que je faisais ce que me disait ma mère. Je pense que ma mère et mon beau-père, au moment où moi je me retrouve avec eux, ils ont, 32 ans. C'est un jeune couple qui a une vie sociale très riche. Et je pense qu'ils aiment leur vie sociale. Souvent, il y a du monde à la maison. Et encore plus souvent, ils sont pas à la maison le soir. Mais ce qui me plombe, c'est qu'il y a beaucoup moins de gaieté, il y a beaucoup moins de rire et il n'y a pas d'animaux. Mon beau-père, il aime pas les animaux. Ça, je sais que dans sa bouche, chaque jour, c'est les animaux, ça salit et ça apporte des microbes. Moi, je fermais ma gueule avec lui. J'ai jamais osé m'opposer à lui, jamais. Mais comme je souffre depuis déjà un an ou deux de l'absence d'animaux dans mon quotidien, je demande absolument à avoir un oiseau. Puisque l'oiseau, l'avantage qu'il présente, c'est que vivant en cage, il devrait peut-être être plus facilement accepté par le beau-père qui n'aime pas les animaux, puisqu'il est enfermé dans une cage. Et donc, je leur demande ça, et je crois me souvenir que ce sont mes grands-parents qui me font cadeau de ce Ménat qui vient d'Inde. Je dois avoir 7 ans. Et il se retrouve chez nous dans une grande cage qui restera dans la cuisine, toujours pour ses problématiques d'hygiène. Mais à partir du moment où il arrive, c'est la gaieté. C'est-à-dire, il y a des chants tous les jours. Je passais des heures et des heures avec lui. Et donc, je me sens un peu mieux. Vraiment, hein. De 9-10 à 18 ans, je suis l'adolescent lambda, j'ai totalement abandonné mes velléités d'avoir d'autres animaux. Je me suis fait une raison, j'ai le ménage, j'ai déjà de la chance, mais il y a un peu de violence physique de la part de ce beau-père sur moi, ça me pèse, franchement c'est pas agréable. Donc à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, je me souviens de crises de colère où je dis « je vais m'enfuir, je vais m'en aller, j'en peux plus, j'étouffe ». Je m'en souviens très bien. Je voulais me barrer de ce lieu là où je me sentais enfermé, je me sentais pas bien, et je voulais être auprès de mes grands-parents. Mais mon grand-père est mort et je suis parti vivre avec ma grand-mère. Donc je vivais plus du tout chez mes parents. Et donc j'ai quelques difficultés scolaires en seconde, première, et je redouble. Et là, je prends conscience que il va falloir que je m'attelle sérieusement à l'étude parce que je veux vraiment être vétérinaire. Depuis toujours, depuis qu'on me pose la question, je crois que je dis que je veux être véto. Donc je me retrouve dans une boîte à bac, je passe le bac filière scientifique et j'intègre une classe préparatoire et je réussis le concours d'entrée aux écoles nationales vétérinaires françaises. C'est mon rêve de toute une vie qui se concrétise. Je suis dans l'exaltation la plus totale, une extrême allégresse. Je me dis, oh, ça y est, enfin, je vais vivre et je vais vivre ma vie. J'ai 20 ans. Dans la vie que j'ai aujourd'hui, je suis vétérinaire en ville, j'ai des milliers de patients, j'ai une ferme refuge dans laquelle sont hébergés des centaines d'animaux. J'interviens dans cette ferme depuis 30 ans. J'ai 10 chiens, 4 chats et je ne pourrais pas vivre sans animaux, jamais. C'est pas envisageable. Parce qu'ils nous aiment, ils nous aiment, mais ils nous aiment vraiment intensément. Ah ouais. Moi, je suis convaincu que les animaux, ils ont une faculté d'aimer qui est beaucoup plus développée que la nôtre, beaucoup moins conditionnelle que la nôtre. Il y a quand même quelque chose de particulier dans notre relation avec les animaux qu'on ne retrouve pas avec beaucoup de moments qu'on vit avec les autres humains. C'est quand même quelque chose de particulier ce qu'on partage avec eux. Moi, je les aime tous. Yellow, viens mon chien, viens mon petit Yellow. Oh qu'il est beau ce petit Yellow. Yellow, qu'est-ce qu'il veut ce chien? Qu'est-ce qu'il veut ce chien? Hein? Oh qu'il est beau ce petit Yellow. Yellow.
Ouais. Mousse, c'est un chien que j'adore. C'est un Springer, noir et blanc, yeux marrons. Et c'est pas mon chien, mais j'aimerais bien en fait. Pour moi, ce serait quand même un rêve un peu de l'avoir tous les jours. Sauf que je peux pas. Comme j'habite en ville, bah, je peux pas la garder parce qu'un chien en ville, c'est pas tout le temps très heureux. Il faudrait un chien qui soit habitué à la ville. Et donc mon oncle, il habite en campagne, il a un jardin et donc elle peut se défouler énormément. Et donc là, bah, je suis venu voir mon oncle et pour voir Mousse, c'est comme si elle faisait partie de ma famille. Elle est, c'est pas qu'un simple animal, c'est ma cousine en fait, si on pourrait dire ça. Tellement je m'y suis attaché et à la fin, c'est comme si on pouvait parler ensemble en fait. Des fois, elle me comprend et c'est comme un humain. C'est, pour moi, c'est en même temps une chienne, mais avec un esprit d'humain. Quand tu ressens un truc, elle peut le ressentir aussi super facilement, en fait. Quand t'es triste, tout d'un coup, elle peut être aussi triste pour toi, par exemple. Elle comprend tout, en fait. C'est comme de la magie, un peu. C'est comme si elle connaissait tes sentiments, et donc elle pouvait savoir si t'étais triste, ou t'étais joyeux, ou si t'étais choqué, ou si t'avais peur, par exemple. C'est aussi fort qu'une amitié. Mousse, donne, pas bouger. Ah si. J'ai un meilleur ami qui s'appelle Gaspard, qu'on se connaît depuis longtemps. Je pense que si on me dirait tu dois couper la jambe de un des deux, et eh ben j'hésiterais à que ce soit moi qui me coupe la jambe à moi au lieu de eux deux quoi. Tellement c'est dur de choisir. Je pourrais pas choisir. Mousse, elle est... on pourra jamais la remplacer. C'est comme une voiture. Une voiture, tu peux la remplacer, sauf que là, non. Là, c'est pas possible. Voilà, je crois que là, elle creuse un petit trou. Ok. Voilà, là, elle a la tête dans le trou et là, elle est en train de creuser, là, avec... Là, je sais pas ce qu'elle a dû trouver, mais... Voilà, le trou du gros, là. Là, je pense qu'il faudra l'arrêter, parce que quand même...
Mousse.
Non. Non. J'arrive pas à lui dire non, en fait, c'est trop dur pour moi, donc... Ah, voilà, elle me regarde un peu en mode... Allez, encore 5 minutes, encore 5 minutes. Comme si elle voulait creuser encore 5 minutes.
Allez, Looping, viens me voir. Viens. Looping, ça, c'est le chien de la maison. Viens me voir. Ouais, petit gros pépère. Viens. Viens voir, Looping. Ils s'en fout complet. Donc, je m'appelle Alban. J'ai 57 ans. Pourquoi j'aime les animaux? Je ne sais pas. C'est inexplicable. Je pense qu'on ne peut pas l'expliquer pourquoi on aime un animal. Ça ne s'explique pas. C'est comme ça. C'est comme ça depuis l'enfance. J'ai attendu d'avoir un chien. Mes parents n'avaient pas tellement envie que j'en ai un, même pas du tout. Ils avaient raison parce que pour moi, ça aurait été très bien d'avoir un chien. Mais pour eux, je pense que ça n'aurait pas été bien. C'est eux qui l'auraient promené. Moi, j'aurais promené mon chien un quart d'heure en rentrant de l'école. Je pense qu'il n'aurait pas eu une belle vie. Donc, je pense qu'ils ont eu raison de ne pas me prendre de chien. Donc, mes parents m'ont dit, quand tu habiteras seul, tu auras un chien. Je retrouve des photos quand je suis petite, je suis toujours accroupie à côté d'un chien, en train de caresser un chat. Il y a toujours un animal. J'étais surprise. Quand j'ai retrouvé ces photos, je me suis dit, ah oui, voilà. Là, déjà, j'avais cette envie d'animal. Mais c'était tellement inaccessible, en fait, que je pense que pendant longtemps, je l'ai tué à mes amis. Voilà, je me disais, un jour, je l'aurai. Je voulais, je ne pensais qu'à ça. J'avais plusieurs livres sur les chiens. Je regardais les caractères, la taille, le comportement, comment l'éduquer, ce que je pourrais faire. Et je me disais, alors quand je pourrais, je prendrais... Alors est-ce que je prendrais celui-là ou est-ce que je prendrais plutôt un Saint-Bernard ? J'aime les gros chiens. Et c'était un rêve. Je me disais, bon, alors je peux prendre celui que je veux. Voilà, donc j'imaginais, je me disais, dans 10 ans, j'aurai mon chien. Après, vous m'auriez offert le chien le plus petit, le plus moche de la terre, mais ça n'aurait eu aucune importance. Moi, j'étais prête à aimer un chien. Mais je savais qu'il y avait 10 ans minimum. Alors, j'ai pas mal vécu pendant 10 ans, hein, mais j'attendais ça, d'avoir un chien. Je pense qu'il y a un moment où j'ai arrêté d'en parler, où j'ai arrêté de demander, et je me suis dit, bon, j'attends. Voilà, on m'a dit que quand j'habiterai seule, j'aurai mon chien, donc j'attends. Donc oui, c'est resté assez enfoui, et à part regarder et acheter des livres sur les chiens, des cartes postales, et voilà. Je pense que j'en ai plus parlé, et je profitais juste du moment, quand il y avait un chien qui passait. J'arrêtais à chaque fois les personnes en disant « je peux le caresser, comment il s'appelle ?» Enfin voilà, donc je monopolisais beaucoup. Hein. Ça durait un bon moment. Et après, il y a la dame ou le monsieur qui me dit « bon, faut que j'y aille ». Mais moi, j'étais très contente de ce petit moment qui était entre moi et un chien. Et je me rappelle que quand il y avait un chien qui attendait avec son maître ou tout seul devant la boulangerie, oui, ça, je m'arrêtais et j'y allais. J'étais là, je l'appelais. S'il venait, j'étais trop heureuse. Tout était bon à prendre. Hein. 5 minutes, 2 secondes, une caresse, trop bien. Je me souviens d'un Golden Retriever qui habitait dans la rue, que je voyais souvent. Je me souviens de griffons. Pareil, j'avais le droit de les caresser, je connaissais la dame. Voilà, c'était toujours ça de pris, mais c'était pas mon chien. L'adolescence arrive, je grandis. Je sais que mes parents me préparent un petit studio. À 16-17 ans, je me rappelle que quand les travaux ont été finis, à ce moment-là, j'ai commencé à regarder comment je pouvais faire pour avoir mon chien. Donc, je vais à Clermont-Ferrand chez ma tante. À Clermont-Ferrand, juste à côté, à Issoire, il y a un élevage de dog allemand. On m'emmène là-bas, je visite l'élevage, je rencontre la dame. Et là, voilà, dog allemand gris. Et elle me dit, j'aurai des petits dans 3-4 mois. Voilà. Donc là, je me suis inscrite et j'ai attendu mon chien. Alors, le dog allemand, c'est Scooby-Doo, en fait, pour ceux qui connaissent les dessins animés. C'est un Danois. Très gros chien, un des plus grands chiens du monde, avec le Saint-Bernard et le lévrier irlandais. C'est un chien à poils ras et ça a d'assez grandes babines. Et c'est très doux et très affectueux et très calme. Donc voilà, au bout de 2 mois et demi, j'ai pris mon train, j'arrive chez l'éleveuse. Donc on va à l'endroit où se trouvent les bébés et la mère. Et finalement, je ne sais pas si c'est tellement celle qui est venue vers moi, mais j'ai vu une grosse mémère un peu calme dans un coin. Et je me suis dit, ouais, mais ça me va bien aussi. Et puis finalement, elle s'est levée et elle est venue. Donc en fait, voilà, on ne s'est bien plus. Donc j'ai dit, c'est celle-là que j'aimerais. Et j'ai choisi de l'appeler Daphné, parce que c'était l'année des dés. Voilà, donc Daphné a débarqué dans ma vie. Et donc, à partir du moment où vous vous retrouvez dans le train, vous n'osez pas vous installer dans le wagon et que vous restez sur le strapontin dans l'entrée avec votre truc qui pèse quand même 15 kilos, qui est épuisé, qui dort sur vous. Voilà, là vous réalisez. Ah, vous vous dites, je rentre avec mon chien, ça y est, j'ai mon chien. 10 ans d'attente. Et donc là, je l'ai. Je pleure dans le train, comme aujourd'hui. Mais je lui parle, je suis tellement heureuse, je suis fatiguée, je suis épuisée d'émotions. Donc j'ai eu 3 heures pour me rendre compte que oui, j'avais un chien, ça y est. Donc je suis arrivée au train, mes parents étaient venus me chercher, et je suis montée à mon appartement. Je portais le chien, parce qu'elle avait 2 mois et demi, qu'il fallait pas qu'elle monte 3 étages. Donc je portais mes 15 kilos. Et voilà, et finalement cette petite bête qui arrivait chez moi à 15 kilos, à 2 mois et demi, a fini par peser au bout de 2 ans 75 kilos et mesurer, je ne me rappelle plus trop, mais enfin beaucoup plus grande que moi quand elle mettait ses pattes avant sur mes épaules. C'était trop magnifique. Voilà, on a eu une vie sublime. J'ai eu Daphné, après j'ai eu Lucrèce, après j'ai eu Tess, et maintenant j'ai Romy. Je n'en ai eu que 4, mais quel bonheur! Des chiens, c'est... c'est comme si on avait un seul chien sur 40 ans en fait. J'en ai eu 4, mais ils sont tous... unis l'un à l'autre. Ils ont beau être très différents physiquement, mais c'est comme un chien unique. Ils sont tous reliés les uns aux autres. Et le chien même se confond. Un chien, ça vous donne tout. Un chien, ça regarde son maître, il n'y a que ça. Mais je pense que c'est pour ça qu'on aime beaucoup aussi, hein, ce côté domestique qui vous regarde avec les yeux de l'amour, oui. Parce que vous pouvez être très moche, très beau, très riche, très pauvre, le chien s'en fout. Il y a Marguerite Yourcenar qui disait qu'un chien, ça n'avait que sa vie à offrir, et c'est vrai. En fait, il vit, et puis il ne se pose pas de questions sur le passé, sur le futur, sur l'avenir. Un chien, ça vit avec vous. Ça vous fait vivre le présent un peu mieux. C'est une affection calme et apaisante. Alors bien sûr, ça fait la fête, ça saute, ça rigole, parce que ça se marre avec vous, un chien. Mais c'est un amour tranquille. À 57 ans, je ne m'en remets toujours pas. Ça reste toujours aussi magique. C'est toujours aussi merveilleux d'avoir un chien. Je ne m'en lasse pas. Je ne m'étais jamais posé cette question-là. Est-ce que les chiens nous apprennent à aimer ? D'une certaine manière, oui, parce que eux, il n'y a pas de conditions. Nous, on est incapables de ça. Hein. Aimer sans conditions, sans rien dire, sans rien demander ? Non, je ne le pense pas. Mes parents, mon amour, sans condition, non. Je pense qu'il y a toujours des conditions. On a toujours un peu des exigences quand même, non? Enfin, je sais pas. Moi, je vais vous dire, mon chien, quand je rentre, il remue la queue. Il n'est jamais fâché. J'ai pas été déçue du tout de l'amour d'une personne par rapport à l'amour d'un chien. Certainement pas. Je dis que l'amour d'un chien... c'est plus facile. L'amour d'un chien, on arrive difficilement à cette hauteur-là, je pense.
C'était Chien, un reportage d'Élise Andrieux, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Thierry, Jacques et Alban, ainsi qu'à Claire et à Marina. C'est Jeanne Copé, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Justine Calais, notre stagiaire.